Radio Kapi.
À la une, l'ouverture ce lundi à New York de la 77e Assemblée Générale de l'ONU, sommet axé notamment sur l'éducation. Selon les Nations Unies, l'éducation de plus de 90% d'enfants dans le monde a été interrompue par le coronavirus. Conflit Teke et Akaakwamut dans le Maïndombe. L'évêque du diocèse de Kenge invite les deux communautés à privilégier la paix et la réconciliation. Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba a lancé cet appel samedi à l'occasion d'une messe organisée par le doyenné de Bandundu pour justement la réconciliation de ces deux peuples. Et puis, conditions carcérales déplorables à la prison centrale de Kalemi dans la province du Tanganyika. L'alerte est du coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH Kalemi, Dieudonné Kabulo, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. L'actualité, c'est d'abord l'ouverture de la 77e Assemblée Générale de l'ONU ce lundi à New York, d'abord avec un sommet sur l'éducation. Selon les Nations Unies, l'éducation est aujourd'hui en pleine tourmente. Partout dans le monde, l'éducation de plus de 90% d'enfants a été interrompue par le Covid-19, ce qui constitue le bouleversement le plus important de l'histoire pour les systèmes éducatifs. Pour de nombreux étudiants, en particulier les filles et les jeunes femmes, cette rupture peut devenir permanente avec des conséquences potentielles sur leurs droits, l'égalité et le développement des générations futures. La pandémie a également fait ressortir des grandes disparités, non seulement entre les pays, mais surtout entre différents groupes d'apprenants d'un même pays. D'autres détails sur ce sommet avec Alain Rungmushinge, notre envoyé spécial à New York.
Le sommet sur la transformation de l'éducation est organisé en réponse à une crise mondiale de l'éducation portant sur des facteurs tels que l'équité, l'inclusion, la qualité et la pertinence. Souvent lente et invisible, cette crise a un impact dévastateur sur l'avenir des enfants et des jeunes de la planète, estime l'ONU. Le sommet sur la transformation de l'éducation est une initiative clé du programme commun lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en septembre 2021. Convoqué par le secrétaire général à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce sommet a pour objectif de placer l'éducation au premier rang de l'agenda politique mondial, de mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et les solutions afin de combler les lacunes d'apprentissage liées à la pandémie et de semer les graines nécessaires à la transformation de l'éducation dans un monde qui évolue rapidement. Les systèmes éducatifs doivent s'adapter à l'évolution des compétences nécessaires dans le monde professionnel avec un apprentissage plus centré sur l'étudiant, plus connecté, plus dynamique, plus inclusif et plus collaboratif pour permettre à la créativité de s'épanouir. De New York, Alain Rungmushinge, Radio Kapi.
Notez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, est arrivé ce lundi matin à New York pour participer à cette assemblée, la 77e des Nations Unies. En sa triple qualité de président de la RDC et président en exercice de la CEAC et de la SADC, le président Félix-Antoine Tshisekedi devrait prendre la parole du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de cette assemblée générale exclusivement en présentiel le mercredi 21 septembre. Ici au pays, dans la province du Maniema, le ministre provincial de la Santé, faisant l'intérim de celui de l'EPST, a lancé ce lundi à Kindu l'opération d'identification et codification des élèves, ainsi que le recensement des écoles publiques et privées agréées. Cette opération vise, selon les organisateurs, à constituer un fichier fiable pour maîtriser les effectifs de tous les élèves. Ces opérations de 4 mois sont menées par le service de Sécopé en collaboration avec le service national d'identification des élèves, Florence Kiza. Pour le reportage.
Selon le directeur provincial de Sécopé Maniema 1, c'est dans le souci de lutter contre les faux titres scolaires et autres pièces scolaires ainsi qu'au vagabondage scolaire des élèves que le ministre national de l'EPST vient de lancer ses opérations afin de maîtriser les statistiques de tous les élèves et écoles. Adamu Kamulete.
Cette identification doit se faire dans des salles de classe et la présence physique des élèves est obligatoire. On doit tenir compte aussi des registres d'appel et les listes déclarées. sportives qu'on trouve au niveau de chaque établissement. Et ça va aider à maîtriser le cursus normal des élèves. Quel que soit l'établissement scolaire, on doit avoir des traçabilités de son cursus normal.
L'inspecteur principal provincial, Diangenda Samukina, fait savoir que cette première opération concerne d'abord les élèves réguliers.
Les autodidactes, c'est tout candidat âgé de n'importe quel maximum. Au moment où il n'a pas encore réussi à l'examen préliminaire, il n'est pas considéré comme autodidacte. Lorsqu'ils vont réussir à l'examen préliminaire, ils seront considérés comme autodidactes et ils seront aussi enregistrés.
L'autorité provinciale a, de son côté, obligé tous les responsables de l'EPST de prendre des dispositions idoines pour que ces opérations soient un succès dans la province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, conflit interethnique entre les peuples Teke et Aka dans le territoire de Kwamout au Maïndombe. L'évêque du diocèse de Kenge appelle les deux parties à déposer les armes. Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba a lancé cet appel samedi lors de son homélie à l'occasion de la messe organisée par le doyenné de Bandundu pour justement la réconciliation de ce peuple. Il a invité les deux communautés à mettre fin aux violences et à privilégier la réconciliation et la paix par le dialogue. Les propos de Mgr Jean-Pierre Kwambamba, recueillis par Irène Boma.
Nous sommes tous préoccupés par la difficile situation sécuritaire au plateau de Patété. Ce qui est vrai, c'est que le sang a coulé, et beaucoup de sang. Nous invitons les auteurs de ces massacres à la conversion. Comment tes frères peuvent-ils s'étuyer avec des machettes? Il faut que cela s'arrête. Comme Père spirituel, comme votre pasteur, nous demandons aux fils et aux filles de chair du territoire de Kwamout de déposer une fois pour toutes leurs armes, les armes blanches qu'ils utilisent, qu'ils cessent d'incendier les maisons, de piller les biens. Comme disciples du Christ, nous ne répondrons jamais à la violence par la violence. Nous ne répondrons jamais à la haine par la haine. Pardonnez-vous les uns les autres. Nous les invitons une fois encore à enterrer leur acte de guerre et à se réconcilier.
Kasaï Oriental, cette bonne nouvelle pour les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Amand de Kabanda de Ngandangika, plus ou moins 90 km de Mbujimayi. Après un mois et demi de fermeture, cette paroisse est rouverte depuis ce week-end. Elle a été profanée en juillet dernier par des inconnus. La première messe de réouverture a été dite par le premier vicaire général, Monseigneur Grégoire Chimena, suivi d'une cérémonie de purification de cette paroisse. Esther Ndalafina, reportage.
Les chrétiens de cette paroisse ont participé ce dimanche à la deuxième messe après un mois et demi de fermeture. La messe de repentance et de purification de la paroisse a été dite le vendredi par Mgr Grégoire Chimena devant la paroisse profanée. Plusieurs paroissiens venus à cette messe ont demandé pardon à Dieu pour les actes qui ont été commis jusque-là par des personnes non autrement identifiées. Ce dernier avait cassé les portes de cette paroisse. Ils ont emporté les objets sacrés, dont le sacrement. Au cours de la messe de repentance, le premier vicaire général, Mgr Grégoire Chimena, a béni l'eau mélangée au sel qu'il a aspergée à l'extérieur et à l'intérieur de la cathédrale Saint-Amand de Kabanda. Cette cérémonie a été suivie de l'ouverture officielle de la grande porte de la paroisse pour permettre aux prêtres et aux paroissiens d'accéder dans leur temple. Devant le curé, les prêtres ainsi que les paroissiens, le premier vicaire général a sanctifié l'autel, le tabernacle ainsi que les habits liturgiques. Signalons que pendant la période de fermeture de cette paroisse, les messes avaient été momentanément délocalisées sur ordre du diocèse. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
En Ituri, les maisons de commerce, écoles et marchés sont restées fermées ce lundi à Mambasa Centre. C'est en application du mot d'ordre des deux jours de ville morte décrétés par la société civile Force Vive et la nouvelle société civile de ce territoire. Selon leur déclaration à la presse, cet appel a été lancé pour interpeller le gouvernement à mettre fin aux exactions des rebelles ADF, notamment le meurtre, le pillage des biens et le déplacement des milliers d'habitants. Plus de détails avec Isaac Remoyope.
L'artère principale de Mambasa Centre où se trouvent la plupart des maisons de commerce et les marchés centrales est presque déserte. Les taximens et les véhicules en circulation sont rares. Les élèves qui inondent les rues chaque jour dans la matinée ne sont pas visibles. Selon la société civile locale, les 2 jours de deuil sont décrétés pour honorer la mémoire des 63 personnes tuées par les rebelles des ADF depuis le mois d'août dernier dans les chiffrées de Babilaba Bombi et de Bakwanza. Plusieurs écoles sur l'axe commande à Mambasa, l'hôpital de Lolo et 4 centres de santé sont fermés et plusieurs villages vidés de leurs habitants. Marie-Noël Anatone, coordonnatrice intérimaire de la société civile.
Voir 63 personnes mortes, ça nous a indignés. Les 2 journées sont pour interpeller les autorités, pour agir en temps chaque fois qu'il y a des incursions et aussi, n'est-ce pas, nettoyer les zones qui sont plus touchées par ces incursions.
L'administrateur du territoire de Mambasa déplore cette démarche de la société civile. Il ajoute que la requête de cette structure n'est pas fondée car les opérations militaires se déroule dans son entité et les résultats sont palpables. Jean-Baptiste Matadi.
Secteur opérationnel Grand Nord, il y avait un rapport qui a fait le travail de profondeur et ils ont récupéré beaucoup de villages. C'est le travail que nous sommes en train de faire tous les jours ici.
Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, la situation humanitaire et sanitaire n'est fait que se dégrader et s'empirer pour les déplacés de guerre de Rutshuru vivant sur les différents sites dans le Nyiragongo. 8 décès déjà enregistrés parmi ces personnes déplacées en situation de vulnérabilité depuis leur arrivée en juin dernier. Ils sont actuellement plus de 2000 ménages répartis dans 5 sites parsemés dans le territoire de Nyiragongo. Les conditions humanitaires qui restent à désirer sont les causes majeures de ces décès, dont la majorité sont des enfants de moins de 5 ans, la société civile de Nyiragongo lance un SOS. Le point avec Tati Mapuku.
Le dernier cas est celui d'une fillette déplacée de 6 ans, décédée ce week-end sur le site de Kayembe après une courte maladie liée à la misère que sa famille traverse. Plus de 2000 déplacés cantonnés dans le territoire de Nyiragongo connaissent une situation très précaire et misérable, indique le président du site de Kayembe. Théo Moussekour indique qu'actuellement, toutes les 48 heures ne se passent sans un décès enregistré. Une dizaine de cas de maladies des mains sales sont aussi reportés. L'Organisation internationale Médecins sans frontières MSF en sigle, qui approvisionnait ses différents sites en eau potable, affirme être à la fin de son projet depuis 3 semaines maintenant, ce qui expose les déplacés aux différentes maladies. La société civile dit craindre et s'attendre au pire si rien n'est vite fait.
Le gouvernement congolais semble malheureusement abandonner différents déplacés entre les mains des humanitaires et dont aussi qui disent être à court de financement et tout cela pose déjà un sérieux problème sur la survie des déplacés. Ces déplacés, ils étaient assistés en eau potable par l'ONG MSF qui actuellement dit être aussi à court de financement.
Signalons cependant que MSF continue à apporter son soutien en médicaments dans ces sites.
Nord Kivu toujours. Les FARDC annoncent l'arrestation dimanche dans la ville de Butembo du leader du groupe armé Mai Mai Kiandenga, supplétif des rebelles ADF. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Kambale Kupaku Jean-Baptiste alias Kiandenga a été arrêté avec 10 de ses combattants en pleine réunion de planification des opérations d'attaque contre la population civile de Butembo. Plus de détails dans ce reportage rendu par Honoré Misenga Kalala.
Monsieur Kambale Kupaku Jean-Baptiste alias Kiadenga, leader du groupe armé Mai Mai Kiadenga, opère souvent à l'ouest de la cité de Ringeti dans le territoire de Beni et dans les périphéries de la localité de Biakato dans le territoire de Mambasa en Ituri. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, il a été surpris dans une réunion de planification de massacre dans la ville de Butembo avec 10 de ses combattants Mai Mai, capitaine Anthony Mwalushiai.
Ce leader Mai Mai a été arrêté le dimanche 18 septembre 2022, lorsqu'il organisait une réunion de planification des opérations contre la population civile et les services de sécurité.
En réaction, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADOS, salue cette arrestation. Cependant, son coordonnateur recommande aux autorités militaires de garder ce leader, Mai Mai, dans un lieu sûr afin d'éviter une éventuelle attaque de ses hommes pour sa libération. Maître Omar Kavota.
Nous passons que son arrestation va fragiliser davantage ces mouvements terroristes. Mais sachant le rôle qui est sien au niveau des ADF-MTM, nous craignons que ceux ceux-ci cherchent à pouvoir obtenir sa libération. C'est pourquoi nous voudrions qu'il soit gardé à lieu sûr.
Ce chef rebelle est très connu dans des attaques contre les FARDC dans la région de Beni et de l'Ituri. Kambale Kupaku Jean-Baptiste, alias Kiadenga, est souvent accusé par les autorités militaires d'être de connivence avec les rebelles ADF.
Actualité Afrique Monde.
2000 invités ont assisté ce lundi à Londres aux funérailles de la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. L'abbaye de Westminster, où la monarque a été couronnée en 1953, a accueilli cet événement hors norme avec une série d'hommages rendus depuis la mort le 8 septembre de la reine d'Angleterre.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Kalemi. Il dénonce les conditions carcérales à la prison centrale de Kalemi. Dieudonné Kaboulo l'a dit vendredi à Radio Kapi. Il est notre invité et s'entretient à ce sujet avec Paulin Munanga.
Monsieur Dieudonné Kaboulo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de visiter la prison de Kalemi. Quel constat avez-vous pu faire?
Nous avons organisé une visite de la prison qui était conjointe. Il s'agissait de la CNDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et le ministère aussi des droits humains devrait participer à cette visite. Bon, malheureusement, le ministère était un peu empêché, mais nous sommes allés avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. On devrait rencontrer les autorités de la prison. Ils ont dit que les conditions sont très mauvaises. Ils disent non, puisque notre prison ici est conçue pour 250 personnes. Maintenant, je dois gérer 900 plus de personnes au lieu de 250. Vous voyez les conditions, comment les gens peuvent dormir, comment ils peuvent vivre, c'est compliqué. Ils disent qu'ils passent nuit à tous des rôles.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, vous êtes à 50 dans un local, 25 dorment et les autres debout. Après, je ne sais, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ceux qui dormaient se tiennent aussi debout. Et ceux-là qui étaient debout dorment. C'est lui-même qui nous confirme cette situation. Mettez-vous maintenant à la place de ces prisonniers qui ont droit de vivre comme il se doit et que c'est l'État qui doit prendre la responsabilité de ces gens-là. Est-ce qu'on peut aller en prison pour ne pas dormir, pour se tenir debout, attendre quelques heures pour dormir? Nous lui avons posé aussi la question concernant la santé. Il dit que nous n'avons pas de médicaments ici. Nous avons les infirmiers, nous avons les docteurs qui viennent nous visiter. Bon, il peut consulter, mais les médicaments, nous n'en avons pas. Donc, il y a carence de médicaments.
Et la nourriture?
La nourriture, la même chose. Il nous a même montré les dépôts. Il m'a dit, lui, il est nouvellement muté. Il a, je ne sais, 4 mois, 5 mois. Pour lui, depuis qu'il est là, le gouvernement provincial n'a pas encore approvisionné leurs dépôts. Donc, ils vivent en se débrouillant. D'ailleurs, il nous a dit que lui, il avait pris la charge d'aller s'endetter quelque part pour avoir quelques sacs de maïs et quelques sacs d'haricots pour subvenir aux besoins des prisonniers.
Et par rapport à cette situation, l'on craint qu'il y ait des morts.
Mais des morts, il y en a. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, nous avons enregistré 3 morts dans la prison. Successivement, 3 morts. Et ce qui est ahurissant aussi, c'est que ces 3 morts-là ont été enterrés dans de quelles conditions? Le corps s'est décomposé déjà. Donc, la personne qui meurt aujourd'hui, le corps est laissé à son triste sort. On est allé jeter ce corps dans la morgue, mais pas dans le frigo, mais sous le sol pendant une semaine. Et ils sont allés enterrer ce corps. Le corps s'est décomposé déjà. Si vous voulez vérifier, passez autour de l'hôpital général, ils vous diront comment ces corps-là commençaient à puer. Donc, c'est vraiment déplorable. Ce ne sont pas ces conditions-là que les prisonniers, quoi qu'ils sont prisonniers, peuvent être enterrés.
Et c'est une vieille prison qui date de l'époque coloniale. Ne pensez-vous pas qu'il faille construire une autre prison moderne qui remplit toutes les conditions carcérales?
Nous interpellons toujours le gouvernement national de songer à cela, puisqu'on ne peut pas continuer à vivre avec les prisonniers dans ces conditions-là, où soit l'État renonce à ses responsabilités. L'État ne manque pas les moyens, l'État est au-dessus de tout, il doit songer à construire les prisons, particulièrement la prison du Tanganyika, puisque de 250 à 900, et puis les arrestations sont presque journalières. Les 9 900 là, si vous y allez aujourd'hui, vous allez trouver il y a un nombre qui augmente chaque jour, chaque jour. Donc l'État doit songer à construire la prison centrale qui répond aux conditions carcérales.
Et vous, en tant que coordonnateur de la CNDH dans les Tanganyika, quelle initiative allez-vous prendre pour l'amélioration des conditions carcérales?
Dans notre mission, nous sommes conseillers du gouvernement en matière des droits de l'homme. Donc nous avons constaté et ce que nous pouvons nous faire, c'est d'interpeller les autorités locales, par exemple, d'abord.
Messieurs les coordonnateurs Dieudonné Kaboulo, je vous remercie.
Le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, section Kalemi, répondait aux questions de Paulin Munanga. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.